France Musique. Les grands entretiens, Lionel Esparza, France Musique.
Eh bien, bonjour, je suis Jean-Claude Casadesu, chef d'orchestre, et heureux d'être à France Musique.
Arrivé à Lille, Jean-Claude Casadesu, votre nomination c'est en 76, je ne dis pas de bêtises, mais alors il faut remettre les choses en place, peut-être racontez-nous ce que c'était que la vie symphonique à Lille et en particulier l'orchestre de radio qu'il y avait là-bas, qui a été en quelque sorte, je dirais, la base éphémère de ce que vous avez construit à Lille.
Alors c'est une période très étrange, parce que vous savez que la volonté du président Giscard d'Estaing a été dans les années 75 de restructurer complètement la vie symphonique des orchestres dits de province, en supprimant une grande partie, pour rassembler les meilleurs à Paris. Bon, nous sommes en plein jacobinisme, moi je suis en plein girondisme, si j'ose dire, c'est-à-dire que russo-catalan né à Montmartre, j'émigre dans le Nord, et je vais vous expliquer comment, avec le désir absolu de m'immerger dans un désir de partage de ce qu'est mon humus, c'est-à-dire le miracle de la musique. Bon. 1975, mois de mars, Michel Guy, ministre de la Culture, vient à Nantes, écoute un de mes concerts, étant vraiment en mission dans la région, m'appelle et me dit « Écoutez, voilà, j'ai quelque chose à vous proposer. C'est peut-être un cadeau empoisonné, mais c'est à vous de voir. Il s'agirait de terminer le contrat d'un orchestre de radio qui va disparaître. » Ah oui, en effet, c'est un cadeau singulier. Nous sommes au mois de mars, il faut terminer le contrat de cet orchestre qui disparaît au mois de décembre. Alors je lui dis, bon, voilà, jetons-nous à l'eau, j'accepte. J'arrive dans le Nord, les musiciens sont en grève, désespérés. Qu'est-ce que c'est que ce jaune qui veut nous faire travailler alors qu'on veut nous faire la peau? Bref, je fais des allers-retours réguliers en corail, ils refusent de jouer, les débats s'enveniment, je n'apprends pas au conservatoire effectivement l'art des joutes oratoires, mais il me faut bien essayer de les convaincre. Je vous la fais brève, au bout de 2 mois, je leur dis, chers amis, si vous ne voulez pas jouer, vous êtes morts, si vous voulez jouer, j'ai un projet que j'avais soumis à Pierre Mauroy, jeune président du conseil régional, maire de Lille, et qui me dit « Ah, il faudra que vous m'aidiez ». Je lui dis « Excusez-moi, monsieur le maire, c'est le contraire. C'est moi qui viens vous demander votre aide pour essayer de bâtir un grand dessin musical, un grand dessin symphonique dans cette région qui n'a pas eu, au cours de ces années où elle a été le soutien de la France, où elle a servi l'acier qui s'écroule par pan entier, où elle a servi le charbon qui s'écroule par pan entier, où elle a servi le textile qui s'écroule par pan entier, il faut que la culture devienne un élément fondamental et humaniste de la vie de cette région. Bon. Les musiciens, ouais, quoi, non, comment on va pas. Et finalement, le délégué CGT, très, très pur et dur, dit, bon, bah, essayons, on s'assied et on joue. Il n'avait pas joué pendant 2 mois, hein. Je faisais l'aller-retour en permanence et c'était, j'étais un peu perturbé parce qu'on était une personne et demie à croire au futur de cette entreprise. Et alors, il y a une phrase de Mark Twain que j'adore qui est, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde pensait que je me casserais la figure. Il n'y avait aucune embellie. Le 16 juin 1975, premier concert à Lille. 57 musiciens sur scène, dont une quinzaine de supplémentaires, parce qu'il y avait eu des désertions. 51 spectateurs. Donc on ne pouvait pas partir de plus bas. Le désir de l'État de ne pas nous voir nous développer. Donc une succession de putsch, une succession de rencontres, de désirs de convaincre. Le 3 janvier 1976, on est porté sur les fonts baptismaux, Orchestre Philharmonique de Lille, Pierre Mauroy décrète qu'il me donnera 10 musiciens de plus. Et voilà, nous partons pour cette aventure extraordinaire que j'ai conduite jusqu'en 2016.
Là où c'est important aussi, c'est je crois le premier orchestre régional, c'est-à-dire financé en fait directement par une région.
C'est le premier orchestre qui est financé à 50-50 au départ par la région et par l'État. Ensuite ça changera, ça sera 75% la région et le reste l'État. Et puis ensuite, voilà, par diverses sources de financement, on équilibrera d'une façon qui fait que la région a été le grand moteur de cette entreprise. Nous avons été, je le dis sans aucune prétention, mais on a été le fer de lance du grand développement culturel de cette région qui est devenue probablement, sinon la région, en tout cas une des régions les plus culturelles de France et d'Europe, avec ses musées, ses théâtres, son opéra, ses orchestres, sa musique symphonique, sa musique baroque, la danse, enfin voilà. C'est une région d'une grande richesse que les différents présidents, jusqu'à Xavier Bertrand aujourd'hui, ont servi dans le même esprit. Région qui avait beaucoup souffert, il y a 6 millions d'habitants aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. La culture, je crois, est un des éléments de développement de la part d'humanité fondamentale qui permettait de surmonter les grandes épreuves auxquelles ont été soumis les habitants de cette région.
Jean-Claude Cazat-dessus, votre expérience à l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire est vraiment fondamentale pour ça. Vous avez bien dans l'idée, dès le départ, que jouer du Beethoven, c'est très bien, mais on ne le joue pas pour n'importe qui. Il faut trouver les moyens. Les moyens, c'est faire de la pédagogie. Et c'est aller jouer, déjà, par exemple, dans les prisons, dans les usines, dans des lieux qui, a priori, n'attendent pas cette musique qu'on dit classique.
Alors écoutez, il y a une seule raison qui compte, c'est la qualité. La qualité, elle doit être la même pour tous. Mais en effet, elle doit permettre de diffuser dans les lieux de souffrance, dans les lieux d'enfermement, la même qualité, la même musique que dans les festivals internationaux. En résumé, j'ai visité avec mon orchestre 33 pays. Nous avons joué dans les places les plus prestigieuses du monde, que ce soit le Musikverein de Vienne, le Carnegie Hall, le Concertgebouw d'Amsterdam, la Philharmonie de Saint-Pétersbourg, l'Opéra de Shanghai, enfin, etc. 4 continents visités. Mais je me suis fait un point d'honneur, si vous voulez, de répondre à une de mes interrogations qui était proche de la devise de mon ami qui était Armand Marquiset, qui était le fondateur des Petits Frères des Pauvres et qui disait « des fleurs avant du pain », c'est-à-dire le beau avant l'utile, c'est-à-dire convaincre ceux qui s'en croient éloignés que l'émotion artistique, l'émotion de la musique est une valeur irremplaçable et qu'elle permet en effet une meilleure communication, c'est fédérateur entre les êtres humains. C'est peut-être un peu idéaliste, mais ça marche. Mon père avait été petit frère des pauvres, c'est une des valeurs qu'il m'a transmises. Je l'ai accompagné plusieurs fois et c'est vrai qu'il faut toujours avoir un regard envers les plus démunis, si vous voulez. Ma conscience politique, au sens où la vie dans la cité, s'est éveillée devant les détresses de ceux qui perdaient leur emploi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup bouleversé plusieurs fois. J'ai fait des concerts de solidarité pour des gens qui perdaient leur emploi, comme d'ailleurs on y assiste en ce moment avec les Bridgestone dans le Nord, avec le nombre d'entreprises qui ferment. Et je veux dire que c'est très très bouleversant de constater que voilà, on est impuissant devant la fatalité qui frappe des gens qui perdent leur travail. Et un jour à Hazebrouck, ça a été une des grandes émotions de ma vie après un concert, une délégation d'ouvriers d'usine Ordonnin qui venait de fermer, pour lesquels j'avais fait 2 concerts de solidarité, sont venus me voir et me disent « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point votre présence a été incroyablement ressentie, bénéfique. J'oserais dire que vous nous avez redonné de l'espoir. Certains d'entre nous se sont remis à la pratique d'un instrument, certains d'entre nous se sont recultivés et je ne crains pas de vous dire que vous en avez sauvé certains d'entre nous du suicide. » Voilà, c'est assez émouvant, quoi. Bien sûr, j'ai joué dans des lieux, et je le revendique, je crois que j'ai été en France, en tout cas le premier, à emmener un grand orchestre symphonique dans des lieux de souffrance, que ce soit dans des hôpitaux psychiatriques, en prison. Mais on m'a attaché cette image. Ah oui, Casazu, c'est celui qui joue dans les usines et dans les prisons, sous-entendu dans le microcosme snobino-culturucheux, circuler, il n'y a rien à voir. Ben non, justement, parce que c'était en même temps que la fréquentation des grands festivals. C'était dans l'atelier de menuiserie de la prison de Loos, qui était plein de poussière et qui était, hélas, en déshérence. C'était en habit, en smoking et dans les mêmes conditions de dignité qu'au festival du Concertgebouw d'Amsterdam ou au festival de Vienne. Donc, si vous voulez, pas de différence dans la proposition de la qualité à qui que ce soit. C'était un peu ça mon credo que j'avais commencé à bâtir dans les Pays de la Loire et que j'ai développé dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France aujourd'hui.
France Musique, les grands entretiens de Jean-Claude Casazu.
Vous avez évoqué tout à l'heure Pierre Mauroy. C'est l'occasion de parler du rapport au politique, parce qu'un musicien, surtout quand on est chef d'orchestre, il faut faire avec l'argent, il faut faire donc avec les pouvoirs publics aussi en France. Vos rapports avec le politique, avec lui par exemple, quel rapport vous avez avec Pierre Mauroy pendant toutes ces années, ses 40 ans, enfin du moins la partie de ses 40 ans où il a été aux responsabilités à l'Orchestre National de Lille?
Écoutez, ça a été une rencontre essentielle parce que Pierre Mauroy était un visionnaire. Il était très sensible aux projets qu'on pouvait lui soumettre, qu'il avait lui-même décidé de développer, dont il se rendait compte qu'ils étaient pour le bien commun. Je lui dis, je crois que cette région qui n'a jamais eu l'occasion de se pencher réellement sur sa culture a besoin d'une irrigation qui soit fédératrice. Moi, en ce qui me concerne, c'est la musique. Mon but, c'est porter la musique partout où elle peut être reçue. Ça deviendra une devise que j'ai pu mettre en pratique. Il n'était pas particulièrement culturel, il ne connaissait pas grand-chose à la musique, mais il était extrêmement sensible à ce qui pouvait, sur le plan citoyen, apporter quelque chose à tout son peuple. Je n'ai jamais appartenu à aucun parti ni à aucune obédience, mais ma conscience, si j'ose dire progressiste, s'accordait parfaitement avec la vision de Pierre Mauroy sur la solidarité et sur le désir de partage. Et il m'a suivi totalement, comme d'ailleurs tous ses successeurs. Et ça a été une des chances de ma vie et qui m'ont tellement attaché à cette région. J'ai refusé des postes flatteurs ailleurs. On m'a dit, oh, ben oui, mais tu ne soignes pas ta carrière. Si tu restes trop longtemps, ça va certainement te porter préjudice. Georges Prêtre, que j'aimais beaucoup, m'a dit, ah, il faut pas rester trop longtemps quelque part. Mais je lui ai dit, oui, mais c'est plus une œuvre, au fond, qui s'est imposée à moi.
Ce qu'a donné l'orchestre que vous avez construit, Jean-Claude Casadesus, le rapport avec les politiques dont vous nous parlez à l'instant, ça fait de vous un drôle de modèle quand même, parce qu'en France, on considère en général que le chef d'orchestre, son métier, c'est de diriger, de défendre Beethoven, Wagner, etc. Et puis il y a le modèle à l'américaine, en quelque sorte, qui consiste à aller voir les mécènes, à aller voir les responsables, à convaincre tout le temps. On a l'impression que ça, vous le faites, en fait, depuis le milieu des années 70. Vous considérez que votre métier, c'est pas simplement diriger, mais c'est convaincre les gens qu'il faut venir vers la musique, qu'il faut la soutenir et qu'il faut s'engager dans sa direction.
C'est pas très commode, je vous dirais, parce que déjà la musique c'est un full-time job. Enfin, je veux dire, c'est 8 à 10 heures par jour d'immersion dans la pensée des compositeurs et tout ça. Simplement, pour qui, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? De quelle façon est-ce qu'on va servir notre nation sur le plan de la citoyenneté en exerçant ce métier qui n'est pas un métier, qui est une vocation, qui est parfois un destin, qui est une philosophie en tout cas? Mais comment convaincre? Donc, il faut des moyens. L'État ne pourvoit pas à tout, bien que la France, il ne faut pas oublier de le dire, est quand même un des pays au monde qui donne autant pour les services publics et pour la culture aussi. Bien sûr, rien n'est parfait. Enfin, c'est tout de même admirable de penser que, voilà, sans le soutien de l'État, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis, les entreprises artistiques péricliteraient. Mais je me suis posé, comme je vous l'ai dit, beaucoup cette question de savoir à qui doit profiter ce privilège qui est le nôtre de pouvoir fréquenter des chefs-d'œuvre et de pouvoir être investi par cette émotion qui est une part d'humanité qui malheureusement aujourd'hui est bien battue en brèche avec les technologies, les robotiques, les réseaux sociaux, le n'importe quoi, n'importe où. Je veux dire, il faut recentrer un tout petit peu la notion d'humanité. Il y a une sorte de déshumanisation que, à mon sens, l'art et particulièrement la musique peuvent contrebalancer et contrarier.
Jean-Claude Cazette, si on a une période où on ne sait pas trop ce que c'est que la gauche et la droite, on dit que ça ne veut plus dire grand-chose. Ça veut dire encore quelque chose, être un homme de gauche pour vous ?
Écoutez, ce qui compte avant tout, c'est d'avoir un sentiment du bien commun, un sentiment citoyen, un regard à l'autre, un regard de compassion et surtout une répartition plus juste de ce qui fait partie des injustices. Voilà, moi, depuis des années, pour essayer de répondre un peu à votre question, c'est la taxe Tobin, vous voyez. La taxe Tobin, on en parle depuis 30 ans et on n'a pas réussi à la mettre sur pied. Je trouve que c'est un scandale que des centaines de millions, pour pas dire de milliards, ne participent pas à, je dirais, à l'éradication de la faim dans le monde, par exemple. Or, si on mettait une taxe de 0,001% sur chaque transaction financière, on s'apercevrait qu'on peut éradiquer une grande partie, sinon tout partie, de la faim dans le monde. Nous vivons une époque extraordinairement troublée, une époque qui va s'ouvrir sur des tragédies humaines, plus que jamais pour la sauvegarde de notre planète. Je veux dire, au-delà de la musique, au-delà de l'art, il y a la compassion humaine, il y a la solidarité qui doit jouer. Alors on est tous des petits pions, mais il faut que nos gouvernants, et particulièrement l'Europe qui a un potentiel extraordinaire de richesse intellectuelle, humaine, économique, puisse poursuivre dans la direction que lui ont donné les grands bâtisseurs de l'Europe et récemment Madame Merkel et Monsieur Macron. C'est vrai qu'on a réussi à obtenir des compromis et des participations financières qui, j'espère, vont perdurer et qu'on va prendre conscience que la planète étant un village qui est mis à genoux par l'infiniment petit, à une époque où on peut marcher sur la Lune et on a la bombe atomique, on est réduit à 3 fois rien, à l'impuissance. Donc c'est une question qui doit poser vraiment réflexion.
Nous, extrait des Chants d'Auvergne et de Joseph Canteloube, c'était Véronique Jans et Jean-Claude Cazatzu à la tête de l'Orchestre National de Lille. Merci à Flora Sternadel, Christine Amado, Laurent Macchietti et Éric Boisset. On se retrouve demain pour le dernier épisode de nos grands entretiens consacrés à Jean-Claude Cazatzu.
À réécouter sur francemusique.fr.